Nul ne l'ignore, le développement des outils numériques à l'école pose des questions. Plein de questions. Comment se situe la France par rapport aux autres pays? Les deux étudiantes que nous recevons sont allées dans 6 pays à travers le monde voir comment les nouvelles technologies se développaient, et c'est très instructif. Et puis du côté des laboratoires d'idées, Terra Nova ou l'Institut Montaigne que nous avons invité, on s'empare des brûlantes problématiques liées au numérique. Efficacité pédagogique, questions financières et commerciales, mais aussi délicats enjeux autour des data, ces données qui concernent les élèves et les professeurs et ce qu'il va en advenir. Bonjour à tous, bienvenue dans Rue des Écoles, le rendez-vous de l'éducation de France Culture. Émission spéciale numérique donc en cette semaine de vacances scolaires, au moins pour deux académies. Pas d'actualité pour cause d'enregistrement anticipé et pas de chroniqueuse non plus. Nous avons tout de même toujours avec nous notre attachée de production, Laurence Genepin, notre réalisatrice, Alexandra Malka, et même un technicien pour la prise de son, Jean-Richard Dufour.
France Culture,
Rue des Écoles,
Louise Touré.
Et je salue mes invités Fanny Hanor, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée d'études à l'Institut Montaigne, coordinatrice du rapport Le numérique pour réussir à l'école primaire. Daniel Agazinski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-auteur de l'étude de Terra Nova, l'école sous algorithme, on parle bien du numérique. Vous êtes également prof de philosophie et ancien conseiller de Vincent Peillon. Vous connaissez donc bien l'éducation nationale. Autour de cette table également, Svenia Busson, bonjour.
Bonjour.
Et Audrey Jarre, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes toutes les deux cofondatrices du EdTech World Tour. Vous êtes rencontrées sur les bancs d'HEC. On s'intéresse à l'éducation dans les écoles de commerce?
Oui, de plus en plus, et heureusement.
Audrey Jarre?
Vraisemblablement, et depuis qu'on est rentré, on a noté qu'une grande partie de nos camarades avaient découvert ce qu'était la tech et maintenant avaient aussi envie d'entreprendre.
Eh bien, on va en savoir un peu plus sur ces nouvelles technologies de l'éducation et sur la manière dont elles se développent à travers le monde tout de suite. Alors, gros pari est peut-être un petit peu difficile à définir en quelques mots ce que sont les EdTech, les nouvelles technologies de l'éducation. Svenia Busson.
Oui, c'est ça. En fait, c'est les technologies appliquées à l'éducation. Donc, que ce soit dans le supérieur, dans le secondaire, dans le primaire, comment on utilise les technologies pour favoriser l'accès à l'éducation, pour favoriser l'accès au savoir et pour le démocratiser. Et en fait, les EdTech, plus que ça encore, je dirais que c'est de repenser la façon dont on perçoit l'enseignement et dont on perçoit la façon dont on apprend au XXIe siècle.
Ce sont aussi tout un tas d'entreprises, anciennes ou nouvelles, qui se lancent sur ce qui est un nouveau marché. Audrey Jarre, vous l'avez perçu comme ça?
Un véritable marché, je pense, qui dans certains pays provoque la crispation, dans d'autres pays peut-être un enthousiasme trop débordant. Et c'est ce qu'on a pu noter, c'est ce qu'on a voulu noter en fait avec ce projet, en allant dans des écosystèmes qui n'étaient pas seulement au niveau de la Silicon Valley, mais qui s'échelonnaient en fait d'un bout à l'autre du spectre de l'adoption et finalement de la création. Et ça a été très intéressant pour nous d'étudier cet écosystème, pas seulement sous l'angle justement des investissements des entrepreneurs, mais aussi des politiques publiques pour voir ce qui avait été mis en place, ce qui avait réussi, ce qui avait échoué, et finalement de quoi on peut s'inspirer en France quand nous-mêmes on cherche à réinventer l'école numérique.
Alors c'est intéressant, quand vous dites crispation, je pense à la France. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que d'autres pays sont encore très méfiants vis-à-vis de ces nouvelles technologies et de ces EdTech?
Vous avez tout à fait raison. La France, et notamment parce qu'en France, les décisions sont beaucoup plus centralisées que dans la plupart des pays que nous avons visités. Dans des pays comme l'Afrique du Sud, par exemple, ou l'Australie, c'est des décisions qui se prennent à l'échelle des États ou des régions et qui, de fait, peuvent être assez différentes et permettent aussi, finalement, à des États de s'inspirer de bonnes pratiques d'autres régions à l'intérieur d'un même pays et donc d'innover de façon beaucoup plus agile que ce qui est le cas en France actuellement.
Comment vous est venue cette idée de faire un tour du monde, à part le fait que bon, c'est sûrement très chouette hein, d'aller se balader un peu partout pour aller voir des entreprises et des écoles? Pourquoi avoir voulu faire cette comparaison? Vous en avez fait un blog sur EducPro, vous adressez à la communauté éducative en France. On a besoin de s'informer sur ce sujet, Svenia Busson?
Oui, tout à fait. Alors nous, on est parti parce qu'on voyait qu'en France, bon, bah, ça bougeait lentement et on voulait s'inspirer des bonnes pratiques qui se faisaient à l'international et de ramener les bonnes idées en France, d'essayer d'en parler le plus possible. Donc là, on est en train d'écrire des rapports par pays qu'on va publier en mai. Donc ça aussi, ça va faire un peu plus de lumière sur ce qui se passe ailleurs. Il y a des choses très bien qui se passent ailleurs. Et nous, on a été très inspirés et on aimerait inspirer les gens en France et surtout faire en sorte qu'ils s'intéressent à ce qui se passe ailleurs.
Inspiré, par exemple, par quoi ? J'aimerais bien connaître avant la publication de vos rapports, je ne manquerai pas de les lire, mais qu'est-ce qu'il y a de vraiment intéressant ? Qu'est-ce que vous pouvez dire de notable aux enseignants et aux parents qui nous écoutent ?
Avant de partir sur quelques exemples, je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est le décloisonnement. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu aux États-Unis et qui commence aussi dans d'autres pays. C'est le fait d'avoir simplement un dialogue qui est institutionnalisé, qui est même financé entre différents acteurs, que ce soit la recherche pédagogique, du coup, qui ne reste pas à lettre morte, les entrepreneurs qui peuvent s'inspirer de problèmes existants. Et aussi simplement les investisseurs qui ont une visibilité plus importante sur ce qui marche, ce qui fait référence à des sciences cognitives ou ce qui fait référence finalement à une sorte d'idéal entrepreneurial qui finalement ne sert pas à grand-chose. Zvenia, tu peux raconter
un exemple, s'il
vous
plaît.
On en a plusieurs, mais je pense que c'est important aussi de revenir sur les exemples d'échecs, comme on a vu par exemple en Amérique du Sud, parce qu'ils ont déployé massivement du matériel informatique dans le programme One Laptop Per Child, donc ils ont donné un ordinateur portable par enfant.
Ce qui coûte extrêmement cher.
Très très cher, voilà. Au Pérou, notamment en Uruguay aussi. Donc ces déploiements massifs n'ont absolument pas fonctionné parce qu'il n'y avait pas de stratégie vraiment derrière, il n'y avait pas de contenu sur ces tablettes, il y avait le Wi-Fi dans aucune école du pays. Donc je veux dire, c'est des choses qui n'ont pas fonctionné. Donc en fait, nous, ça nous a beaucoup appris sur les conditions essentielles qu'il doit y avoir avant le déploiement de matériel informatique.
Je crois qu'il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'au Pérou. Et des exemples positifs, on a envie d'en entendre. Vous les avez sûrement en tête, l'une des deux, Audrey, Svenia.
Je pense à une start-up indienne qui s'adresse à un marché qui en a besoin de ce numérique dans l'éducation, qui est l'Inde. Et donc l'Inde, le bottom of the pyramid en fait, le BOP, voilà, n'a pas accès à une éducation de qualité. Et donc Vahan, cette start-up indienne, propose depuis un téléphone portable basique d'appeler un numéro qui vous rappelle automatiquement, donc vous dépensez rien, et qui vous apprend l'anglais par téléphone pendant 20 minutes. Des cours comme ça qui sont enregistrés pour que le prof ensuite puisse traquer les progrès, etc. Et donc voilà, ça c'est un service qui est gratuit et qui peut servir à la population indienne qui est massive aujourd'hui et qui ne coûte rien en fait. Pas besoin d'internet, rien en fait. L'innovation dans l'éducation, c'est pas forcément avec des gadgets super high-tech. On peut faire ça avec un simple téléphone portable, un vieux Nokia, et ça marche, ça fonctionne très bien.
Pour ne pas donner de marque ou même un téléphone fixe, allez.
Voilà.
Audrey ?
Et de la même façon, en Afrique du Sud, on a vu beaucoup de plateformes en fait qui s'inscrivaient sur des choses qui existent déjà, donc qui n'inventent pas de nouveaux outils, de nouvelles plateformes, mais qui utilisent des choses similaires à des applications de messagerie instantanée, par exemple, pour finalement que ce soit pas une expérience différente de ce que connaissent déjà les élèves et avoir une application beaucoup plus simple. Et c'est des choses dont on peut s'inspirer, je pense, dans beaucoup de pays, c'est de voir ce qui peut se faire avec très peu de moyens, très peu de connectivité. Pour finalement avoir un impact réel et pas seulement rajouter des couches compliquées à la vie d'un professeur à qui ça ne va pas dire grand-chose, d'autant plus s'il n'a pas de formation. Et ça, c'est aussi une des choses les plus intéressantes qu'on a pu voir, c'est des formations très pertinentes, notamment en Nouvelle-Zélande, ou des formations par les profs et par des cellules d'innovation à l'intérieur de certaines écoles en Australie. Donc c'est des choses intéressantes et sur lesquelles on met moins le doigt, j'ai l'impression, en France, les communautés indépendantes de profs ou les organismes privés qui peuvent être subventionnés de cette façon. Et c'est des choses qui étaient fantastiques dans ces deux pays.
Eh bien, vous allez voir que nous allons en parler de la formation des enseignants, du dialogue aussi nécessaire entre les différents acteurs. Eh bien, tout de suite avec nos invités, mais vous restez avec nous.
France Culture.
Rue des Écoles.
Louise Touré.
Alors, je me suis intéressée à deux récents rapports, celui de l'Institut Montaigne et celui de Terra Nova, sur l'école et le numérique. Ce n'est pas exactement le même type de questions. Hein. D'un côté, la réussite à l'école primaire et de l'autre, les datas. Mais tout de même, on peut faire vraiment faire de l'intertextualité entre vos deux travaux. On va commencer avec vous, Fanny Hanor, sur l'Institut Montaigne. Un rapport qui pointe le besoin, peut-être en termes de pédagogie, de numérique, mais surtout un manque de vision pédagogique globale du numérique en France. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
Oui, alors on ne va pas faire uniquement du bashing pour parler en bon français, mais ce que vous avez pu constater dans d'autres pays, on l'a constaté aussi parfois en France, parce que vous avez parlé de politique très centralisée. C'est vrai pour les grandes impulsions, mais il ne faut pas oublier que ce sont les maires qui décident aussi de l'équipement des écoles et parfois pas du tout en concertation avec les enseignants. Et c'est souvent là que les équipements restent dans les placards, au moment où en fait les enseignants, les communautés ne sont pas associés à une politique d'équipement qui va concerner leur pratique de tous les jours. On a tous lu les conclusions de l'étude de l'OCDE, qui a un retraitement des données PISA publié en septembre, sur le fait que l'informatique, le numérique n'améliorait pas foncièrement les résultats scolaires. On est totalement aligné avec ça. On pense bien sûr qu'un numérique sans changement des pratiques, ça n'a pas d'impact. Et malheureusement, c'est trop souvent encore ce qui se passe. Même s'il y a de gros efforts du côté du ministère de l'Éducation nationale, ce qui se passe là avec la mission Montaigne, c'est extrêmement intéressant. Mmh. Parce que pour le coup, on va vraiment essayer d'associer les chercheurs au contenu qui vont être développés pour les nouvelles applications. Et donc là, nous, on pense que c'est vraiment quelque chose de très positif. Il y a beaucoup de choses à faire sur ce qui était de la formation. Effectivement, nous, on a fait des focus groupes d'enseignants. On a beaucoup consulté des enseignants, mais on voulait aussi tester un petit peu nos constats, nos recommandations auprès de ces communautés-là. Et le déficit de formation, ils le répètent, hein, pour eux, c'est vraiment criant aujourd'hui.
Et un peu dans tous les domaines, là aussi, l'OCDE, les enquêtes internationales pointent un grand manque de la France, un déficit de formation des enseignants. On parle de la formation continue aussi, qui, là où elle est forte, semble mieux faire réussir les systèmes éducatifs, c'est-à-dire un plus grand nombre d'élèves. On parle de dialogue, on parle de concertation. Dans le rapport de Terra Nova, Daniel Agadinski, vous appelez à davantage d'évaluation des impacts du numérique, quelque chose qui ne serait pas assez bien pensé au ministère de l'Éducation nationale. Alors, je sais qu'on parle de nouvelles technologies, mais tout de même, ça
non,
fait
pas plus. C'est plus
quelques années
qu'on utilise.
Que ces technologies existent et sont présentes à l'école.
Très, très rapidement, pour illustrer ce qui a été dit avant, moi, j'ai enseigné quelques temps en SP avec des profs des écoles stagiaires. Et situation qui se reproduisait à peu près à chaque fois, il y avait ceux qui étaient très branchés sur le numérique parce qu'ils connaissaient, parce que ça les intéressait, qui disaient bah oui, mais moi j'ai pas le matériel dans mon école. Et ceux qui inversement me disaient bah moi j'ai un tableau numérique interactif, mais je sais pas du tout m'en servir et j'ai pas d'idée pour m'en servir.
SP, c'est la formation des enseignants, les écoles pour apprendre.
Les nouvelles écoles supérieures du professorat et de l'enseignement depuis 2013-2014. Et quand on dit stratégie globale pour l'innovation pédagogique et pour le numérique, parfois on a l'impression justement, parce qu'on a un raisonnement centralisé, de dire bah on va trouver les innovations qui marchent et puis on va les diffuser. C'est évidemment pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas les innovations numériques bien évaluées qui suffiraient ensuite de transplanter d'une école à l'autre. Mais justement, sur la base d'un exemple comme celui dont je parlais et sur la base de ce que vous voyez dans les travaux que vous avez publiés, on pourrait imaginer un système où justement, ce n'est pas les municipalités qui elles-mêmes décident, sans forcément se concerter avec les enseignants, d'investir dans de l'équipement, ni les enseignants qui décident tout seuls. Mais par exemple, on pourrait imaginer un système du type de suite des investissements d'avenir qu'il y avait pour le supérieur, où les équipes pédagogiques des écoles ou des établissements du secondaire pourraient répondre à des appels à projets et trouver des financements sur la base d'un projet, c'est-à-dire où l'équipement répondrait aux demandes et aux besoins formulés par les équipes. Stratégie globale, on est encore peut-être même dans une vision trop centralisatrice. On peut trouver des stratégies qui créent les conditions de l'innovation pédagogique en général et dans le numérique en particulier. Mais j'ai pas répondu à votre question, en fait.
Manque d'évaluation de l'impact du numérique, outre le fait, alors je rajoute quand même un élément, que se concerter, penser à des plans numériques au sein des établissements, c'est encore et toujours davantage de travail aussi pour des enseignants qui peuvent être un peu pris au dépourvu.
Il faut des incitations pour ça, effectivement, faire que ce soit
banaliser
intéressant.
Banaliser du temps.
Oui, ou justement permettre qu'au bout de ces projets, il y ait des investissements dans du matériel qui permettent de mieux de travailler plus facilement et plus efficacement.
Et concernant l'évaluation ?
Alors, sur l'évaluation, il y a plusieurs questions qui se posent. Il y a l'évaluation par rapport à, effectivement, l'efficacité pédagogique de tel ou tel dispositif. Ça, c'est un peu là-dessus que vous êtes positionné à Montaigne. Nous, on est dans la note de Terra Nova, on était sur l'évaluation des impacts au-delà simplement de l'efficacité pédagogique. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que ça change dans l'éducation d'utiliser du numérique pour la pédagogie, d'utiliser des logiciels qui n'appartiennent pas à l'éducation nationale, qui appartiennent soit à des logiciels libres, soit à des majors de l'informatique, quel que soit leur pays d'origine. Et ce qu'on voulait, au fond, ce qui était important pour nous, c'était de mettre sur la table ces questions qui, aujourd'hui, enfin, commencent à l'être, mais qui longtemps ne le sont pas, soit parce qu'on ne se pose pas de questions, c'est-à-dire on a un outil, on le prend, on essaye, on voit ce qui se passe, soit parce qu'on ne se pose que la question de l'efficacité. Comme si un outil, c'était juste plus ou moins efficace, alors qu'en fait, ça porte tout un tas de conséquences sur les interactions entre les élèves, le rapport au savoir, le rapport aux données, les interactions avec les parents, etc. Et c'est toute cette série de questions qui sont une espèce de zone grise des politiques éducatives, finalement, qui ne sont pas dans les lois, qui ne sont pas dans les décrets, qui ne sont pas dans les circulaires. Ça se passe dans les classes, mais il nous semble qu'il faut le mettre dans le débat pour qu'on puisse avancer sur la compréhension de tous ces enjeux-là.
À propos de zone grise, sur tout ce que ça apporte ou tout ce que ça peut finalement enlever, pervertir, modifier, le livre à l'école, c'est aussi la transmission d'une culture centenaire, c'est apprendre comme on a appris, certes, mais c'est une manière d'accéder à la connaissance, une manière de se concentrer, une manière de s'arrêter, une manière d'apprendre qui a peut-être fait ses preuves pour la majorité des gens, même si on peut toujours discuter de l'efficacité pédagogique de tous les outils. Et aujourd'hui, dès qu'on dit numérique, moi souvent j'en parle sur les réseaux sociaux, il y a aussi des inquiétudes sur les répercussions sur la santé. Ce qui ressort comme étude, c'est aussi que le temps passé devant les écrans, quand il est trop important, nuit aux performances scolaires. On parle du temps passé à l'extérieur de l'école, qu'il faut peut-être se reposer de tout cela dans l'univers scolaire avec ses enseignants pour plonger dans un bon vieux livre, Fanny Hanor.
Nous, on est tout à fait d'accord sur les livres. L'enjeu, c'est vraiment pas de mettre chaque enfant. Nous, on est sur le primaire, hein, de primaire, donc grande section maternelle.
C'est pour ça que je parle des conséquences sur la santé.
Et primaire devant une tablette ou un écran toute la journée. L'idée, c'est vraiment de donner au bon moment, parce qu'on aura su aussi, grâce au numérique, diagnostiquer certainement plus finement les difficultés et les prévenir en donnant au bon moment, au bon élève, le bon contenu. Et les livres, pour nous, ils ne sont pas amenés à disparaître, puisque ce qu'on propose, c'est vraiment pas de substituer un livre à une tablette ou un ordinateur à un livre. L'enjeu, c'est surtout qu'avant de lire un livre, il faut savoir lire. Et nous, on s'est beaucoup intéressé à la grande difficulté scolaire. Et donc, à ces enfants qui n'accèdent pas à la lecture. Et donc, pour qui les livres, c'est même pas un enjeu, parce qu'ils ne savent pas lire, ou en tout cas, pas lire avec suffisamment de fluence pour pouvoir bénéficier de tout ce que nous apporte cette lecture-là.
Et c'est vrai que l'Institut Montaigne a publié aussi des notes sur l'apprentissage de la lecture. Le CNESCO aussi récemment a publié une synthèse sur la question. Voilà, une conférence de consensus de la part du Conseil national de l'évaluation du système scolaire. Cette opposition là entre les livres et le numérique, bon, j'ai un peu recyclé une vieille question. Est-ce que c'est une question de française, Vénia Busson et Audrey Jarre? Est-ce que là j'ai posé les débats d'une manière très hexagonale finalement?
Le cliché du numérique à l'école, en fait, où les gamins sont tout le temps devant leur tablette, je veux dire, c'est vraiment un cliché, quoi, parce que c'est pas du tout comme ça qu'on le pense. Je pense qu'on pense ça plus comme du blended learning, c'est-à-dire avoir un apprentissage.
Essayez de le dire en français.
La classe inversée.
Oui, mais c'est une forme du blended learning, mais c'est pas.
Il y a des débats internes.
C'est en fait un mélange entre un apprentissage au type traditionnel sans outils numériques et un apprentissage avec des outils numériques. Donc c'est vraiment le mélange. C'est pas 100% du numérique ou 100% sans. Donc voilà, c'est un cliché de dire qu'en fait le numérique, ça va nous faire passer toute la journée. Toute la journée, les enfants sont devant leur écran.
Et je crois que le rapport de Montaigne le dit d'ailleurs, que de toute façon le temps passé devant les écrans au sein de la maison et de la famille est supérieur à celui...
Le temps passé à l'école.
Exactement.
Aujourd'hui, alors pas dans toutes les familles, et c'est peut-être aussi ça la fracture numérique aujourd'hui. Faut-il apprendre le code pour avoir aujourd'hui la culture numérique nécessaire pour devenir un honnête homme, une honnête femme du 21e siècle? Si je vous dis ça, c'est parce que le 8 avril, le Conseil supérieur des programmes a adopté un projet pour un enseignement, alors certes facultatif, mais quand même au lycée du code. Daniel Agazinski.
Sur cette question-là en particulier, c'est difficile de savoir ce dont on aura besoin comme compétence numérique dans quelques années. Ça se trouve, coder, ça ne servira plus à rien dans quelques temps, parce qu'il y aura d'autres manières de créer des programmes et des outils numériques. Ce qui est vrai et ce qui est important, me semble-t-il, c'est cette culture numérique au sens large, c'est-à-dire comment utiliser le numérique tel qu'il existe, comprendre comment il fonctionne, comprendre ce qu'on ne voit pas directement. On va venir aux algorithmes peut-être, pour, au-delà d'être un bon utilisateur, être un utilisateur conscient des enjeux. Je pense que ça fait partie des rôles de l'école, de même que quand on apprend à lire dans les livres, on apprend à comprendre ce que c'est qu'une référence, ce que c'est qu'un auteur, une édition, etc. Bah, il faut faire la même chose sur le numérique, puisque ça fait partie de notre environnement. Ça se substitue pas aux livres, évidemment. Mais ça fait partie des choses qu'on peut apprendre et le programme évoque ça aussi.
N'y a-t-il pas en France une inculture généralisée sur le sujet dans la société, chez les enseignants, chez les maires qui achètent peut-être des tablettes sans savoir vraiment comment on va les utiliser dans les conseils régionaux, départementaux?
C'est un peu gratuit, non, cette attaque la France? Est-ce qu'on est plus inculte là-dessus que nous? Je ne sais pas. Mais...
En France ou partout, est-ce qu'il n'y a pas... On va essayer de promouvoir une culture des algorithmes, faire comprendre aux élèves comment ça fonctionne ces machines et comment les flux d'informations circulent, alors que les enseignants eux-mêmes et les adultes en général, et je m'inclus dedans, si vous voulez pas que je fasse de bashing, sont assez largement ignorants et étrangers à cette culture-là.
Alors, ça ne vous concerne pas vous, mais il y a une vraie question de génération, effectivement, auprès des, en ce qui concerne les responsables publics, une partie des enseignants, parce qu'il y en a quand même 850 000, et même s'ils se renouvellent vite en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de recrutement et parce qu'il y a pas mal de départs en retraite, il y a une question de génération, effectivement, et d'habitude, et notamment auprès des responsables publics en France, c'est-à-dire que ce soit les élus ou les directeurs d'administration, sont des gens qui disent, oh ben c'est bien, c'est un outil, le numérique, bon, on va le faire, c'est bien, il faut le faire. Mais derrière, ils ne sont pas familiers des enjeux dans l'autre génération, effectivement.
Fanny Anna ?
Oui, je crois qu'il y a on en revient encore à la question de la formation, puisque finalement, les enseignants sont des Français comme vous et moi, qui, même s'ils utilisent le numérique tous les jours, de là à en comprendre tous les enjeux, tous les mécanismes, à savoir l'utiliser aussi, c'est ce que nous ont beaucoup dit les enseignants, c'est qu'ils ont parfois une formation technique à un outil, mais de là à savoir comment l'insérer dans leur pratique pédagogique, c'est beaucoup plus difficile. Et nous, on a été assez étonnés de voir cet enjeu de la formation in situ et de collègues qui disaient moi, à partir du moment où ça reste sur la base du volontariat, où c'est pas imposé, je serais assez curieux que quelques jours pendant mes vacances scolaires, j'aille voir des collègues qui ne sont pas en vacances alors que moi je le suis, à partir du moment où ça reste bien évidemment très encadré sur la base du volontariat, parce que finalement on a un peu des formations hors sol. Et ça ne nous permet pas de savoir comment bien utiliser ces outils pour nos élèves et pour les faire progresser.
Échanger les bonnes pratiques.
Tout à
mais
fait.
Vraiment,
mais vraiment,
en se rencontrant.
Dans la salle de classe.
Bye.
écoutez Rue des Écoles sur France Culture. Nous parlons du numérique à l'école. Vaste sujet. On a quand même cerné un certain nombre de problèmes, surtout celui de la culture numérique, encore insuffisante, essentiellement parmi nos dirigeants, ceux qui achètent finalement le matériel et les logiciels. Je voulais, à ce propos, parler aussi des histoires d'argent, parce que ça coûte de l'argent, et le matériel et les contenus, par exemple les livres scolaires numériques. Nous en parlions le 27 mars. Écoutez ce que nous disait Raphaël Taïeb, c'est un jeune entrepreneur du numérique qui a cofondé le livre scolaire.
Ce que l'on voit aujourd'hui dans notre secteur qui commence à être chamboulé par tous ces mouvements, mais dans d'autres secteurs qui l'ont déjà été il y a plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, c'est que le numérique remet en question le modèle économique classique, notamment dans les industries culturelles, où il a longtemps été admis et on va dire de vigueur de vendre finalement le contenu qui est créé comme une commodité commerciale. Ce dont on se rend compte avec le numérique et le pouvoir de diffusion que donne le numérique sur les différents canaux digitaux, c'est que le contenu, les utilisateurs, les consommateurs de contenu ne le voient pas. Enfin, on voit toujours la nécessité qu'il y a à ce qu'il soit de qualité. Je pense que personne n'a envie d'avoir des manuels scolaires de mauvaise qualité, des musiciens qui font la musique de mauvaise qualité ou des mauvais films au cinéma. Mais par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que dans tous ces métiers culturels, les gens ont de plus en plus de mal à payer, notamment sur le numérique. Et pourquoi ? Parce que tout le monde a très bien compris, inconsciemment, que le coût marginal de distribution d'un contenu à l'heure du numérique est proche de zéro. Et que donc, la réaction inconsciente ou consciente...
Ce ne sont pas les gens qui payent, ce sont les collectivités locales ou l'éducation nationale.
Mais les raisonnements sont les mêmes. Pourquoi est-ce que le ministère aujourd'hui propose un appel d'offres pour acquérir des ressources auxquelles tous les éditeurs répondent ? Mais quelle est la logique derrière ? La logique est la même, c'est-à-dire de penser que la problématique du contenu culturel, donc là on parle de contenu éducatif, n'est plus une problématique commerciale. C'est une problématique de financement. C'est-à-dire que l'appel d'offres du ministère, il consiste en quoi exactement ? Il consiste à faire appel à des experts, éditeurs, pour créer des contenus et ensuite les mettre à disposition gratuitement de tous les élèves et de tous les professeurs de France. Donc, on voit bien que la logique, qu'on parle de gens, qu'on parle de professeurs, de collèges, de collectivités ou du ministère, le raisonnement, et encore une fois, je pense qu'il est en grande partie inconscient, c'est celui-ci. C'est d'aller vers un monde où créer du contenu, ça se finance, ça ne se vend plus. Ce qu'on vend, c'est du service et de la technologie.
Raphaël Taïeb, cofondateur du Livre Scolaire, une entreprise de livres scolaires collaboratifs. Transformation économique massive et faible capacité des acteurs à en saisir les enjeux. Pour le dire autrement, on a peur que ce qui arrive dans l'éducation nationale, ce soit la même chose que ce qui est arrivé aux industries culturelles, la musique, par exemple, qui se sont écroulées avec un problème pour la rémunération des artistes. Alors là, ce seraient les producteurs de contenu pédagogique. Qui veut réagir, Daniel Agazinski ?
Oui, on a effectivement ce même type de phénomène qu'avec les autres industries culturelles. Avec cette spécificité française que beaucoup de gens connaissent sur le fait que le milieu d'édition tient beaucoup, le monde de l'édition tient beaucoup grâce à l'édition scolaire. Donc, un enjeu qui va au-delà de l'édition scolaire sur les questions financières. Mais finalement, les manuels scolaires, c'est quoi ? C'est des profs qui sont payés par des éditeurs pour produire du contenu. Le circuit peut changer et qu'au fond, à l'arrivée, ce sont encore des profs qui produisent du contenu pédagogique.
Oui, mais sauf que vous avez bien entendu, dans le monde numérique, on n'achète plus des biens pour ceux qu'ils sont, on s'attend à ce qu'ils circulent gratuitement ou pour un faible coût.
Oui, il faut repenser le modèle économique du manuel, effectivement.
Ce qui pose une sacrée question,
ça va être assez compliqué, je pense.
Ça n'a pas très bien réussi pour les autres secteurs.
Moi, je pense que là, il faut pas pour moi, on se pose peut-être les mauvaises questions. L'enjeu, c'est pas de faire vivre le modèle des éditeurs, même si on comprend bien que le modèle de l'édition scolaire est aussi une pierre angulaire de l'ensemble du modèle des éditeurs. Mais enfin, c'est un marché colossal, plus de 300 millions d'euros par an. L'enjeu, c'est est-ce que la numérisation va permettre d'améliorer les usages ? Est-ce qu'on va en profiter pour évaluer davantage ? Parce que finalement, aujourd'hui, la question d'évaluation chez les éditeurs ne se pose pas vraiment. Donc moi, que leur modèle s'effondre ou qu'il se recrée, si c'est pour la réussite scolaire, c'est ça qu'on doit avoir comme objectif. C'est pas de préserver un modèle qui est moribond. S'il est moribond, c'est parce qu'il correspond plus aux besoins d'aujourd'hui. Est-ce que c'est au ministère de financer un modèle qui ne se transforme pas ? Je sais pas.
La question est complexe. Je vous engage à réécouter l'émission du 27 mars, puisque évidemment le syndicat de l'édition y était invité et répondait. Audrey Jarre.
Et puis c'est aussi l'occasion pour ces éditeurs de se réinventer en faisant des partenariats justement avec ces startups qui révolutionnent l'éducation, que ce soit en France ou ailleurs. Je pense notamment à toutes les problématiques d'adaptive learning. Peut-être que le manuel peut se réinventer en venant quelque chose au service de la personnalisation de l'enseignement. Et c'est pour ça que je pense que c'est aussi une opportunité aujourd'hui d'avoir ces difficultés.
Daniela Gazinski.
Donc oui, l'adaptive learning peut ubériser, parce que c'est un peu de ça qu'il s'agit derrière les éditeurs scolaires. Il y a un sujet auquel je pense qu'il faut faire attention, notamment en parlant avec des enseignants, c'est que le manuel papier, il permettait souvent à l'enseignant de faire un peu ce qu'il voulait avec, dans l'ordre qu'il voulait.
Et aussi de ne pas s'en servir, parce que c'est largement le cas.
De ne pas s'en servir aussi, ou de s'en servir un peu à la carte, de mettre sa propre patte pédagogique dans l'usage du manuel. Et souvent, des profs qui utilisent des manuels numériques se sentent captifs du système, de l'écosystème que ça induit, les leçons, les exercices, les progressions individualisées, mais pas par l'enseignant. Il y a un modèle à repenser. Alors évidemment, l'enseignant a à apprendre de ce que les algorithmes éducatifs peuvent lui donner, mais il faut faire attention, à mon avis, à la façon dont les algorithmes d'adaptive learning risquent de déposséder les enseignants de leur relation personnalisée à l'élève.
Alors, ça va être un gros chapitre de l'émission, les datas. On y revient. Audrey ?
Et je rebondis là-dessus, je pense que c'est pour ça qu'il faut co-construire ces entreprises, il faut co-construire l'adaptive learning avec les enseignants. Et ce qu'on a vu, en fait, dans ces différents pays, c'est que les startups qui réussissaient le mieux, c'était celles qui avaient des profs à l'intérieur. Mmh. Et aujourd'hui, tout
c'est
comme...
C'est le cas du livre scolaire dont on a parlé.
Raphaël et sa cofondatrice. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu et c'est ce qu'on encourage. Là, à un dernier salon, il y avait un hackathon pour les professeurs et on était
Hackathon.
Un hackathon.
Si vous voulez bien définir ce que c'est pour nos auditeurs, moi je sais. Mais vous l'expliquerez mieux que moi en même temps.
54 heures pour réfléchir à un problème et prototyper une solution pour y répondre, spécialisée sur l'éducation. Ici, uniquement réservée à des professeurs. En ce moment, il y en a beaucoup en France, à Paris, à Lyon, pour réfléchir à ces mêmes questions. Et on voit de plus en plus de profs qui viennent là, qui ne maîtrisent pas forcément le vocabulaire, ni les technologies, qui se sentent un peu désemparés, voire crispés à prime abord, et qui finalement découvrent des outils et qui, n'ayant pas eu la formation auparavant, pourraient avoir été déstabilisés, mais justement là, trouvent une utilité double, et ça permet justement, je pense, de gagner en flexibilité et de retomber dans cette situation qu'on pouvait avoir avec le manuel papier avant qu'il devienne obsolète, si on peut dire qu'il est obsolète aujourd'hui.
Hackathon, ubérisation, ces mots-là n'existaient pas quand j'ai commencé cette émission rue des écoles, il y a 6 ans et demi. On mesure le changement, enfin changement effectif ou changement possible. N'y a-t-il pas un blocage pédagogique pour l'adoption de ces technologies numériques qui portent aussi en elles un certain discours, par exemple d'autonomiser les élèves ou de singulariser l'enseignement ou même de faire de la pédagogie active? C'est souvent le cas. Finalement, ce ne sont pas forcément les recettes qu'affectionnent les enseignants, au moins celles auxquelles ils sont habitués pour certains d'entre eux. Fanny Anor.
Je pense que pour nous, l'enjeu, c'est ça. C'est vraiment de changer, profiter du tournant numérique pour accompagner un changement des pratiques. Il y a des enseignants qui le font déjà très bien. Il y a des enseignants qui ne le font pas. Alors moi, j'étais enseignante dans le secondaire. C'est pas exactement la même problématique que dans le primaire, mais on voit très bien ce que c'est de faire des petits groupes. Ça peut très vite devenir ingérable selon les élèves qu'on a en face de nous.
J'ai essayé.
Et pour ça, le numérique, nous, on pense que ça peut aider à ça. Parce que ça peut permettre à l'enseignant justement de... Parce que d'autres élèves qui se débrouilleront mieux seront en autonomie, il pourra se concentrer sur les élèves qui ont le plus besoin de lui. Et je pense que justement, il ne faut pas le voir comme quelque chose qui va les bouleverser, il faut le voir comme quelque chose qui va pouvoir les aider à mettre en œuvre des choses qui étaient peut-être moins faciles auparavant. Mais ça demande encore une fois de la formation et beaucoup d'accompagnement.
Et ça se heurte à un grand principe de liberté et d'autonomie des enseignants qui veulent choisir leur pratique. On a un petit peu effleuré la question tout à l'heure avec vous, Daniel Agacinski. Mais si les enseignants ont l'impression d'être traqués et d'être obligés d'adopter telle ou telle façon de faire, ça va peut-être aussi un petit peu crisper le débat et empêcher l'adoption de certaines peut-être bonnes pratiques.
C'est un truc qui est vrai de toute innovation pédagogique en définitive. C'est-à-dire que tant qu'on est dans l'injonction à l'innovation, ça ne peut pas marcher. Ni l'injonction à l'innovation, ni l'injonction à la réplication de l'innovation qui a marché ailleurs. Donc, la question, c'est comment on crée et on réplique les conditions l'innovation. C'est-à-dire comment on équipe les gens de choses qui peuvent correspondre à des projets qu'ils ont. Ça suppose de leur dégager du temps et tout un tas de choses que les enseignants demandent effectivement souvent, oui.
Je pense qu'il faut, leur donner les clés. En fait, faut effectivement essayer d'isoler les conditions de la réussite et leur donner les clés. Il n'est pas question d'obliger des enseignants à avoir des pratiques, à adopter des pratiques dont ils ne veulent pas.
Daniel,
c'est vrai que si on raisonne à un peu plus long terme, le métier va changer. Le métier est déjà en train d'évoluer, il va continuer à évoluer. Notamment, la principale question, c'est comment on peut optimiser, pour parler un peu en économiste, le temps de présence des enseignants. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut sortir de la classe, qui se font aujourd'hui dans la classe? C'est le principe de la classe inversée, pour ceux qui voient ce que c'est.
Donc, on va l'expliquer quand même. Donc, la classe inversée, c'est le fait d'apprendre ou de se familiariser avec la leçon à la maison pendant des heures d'études. Et en cours, les élèves font des exercices sous le regard de l'enseignant qui peut les corriger et remédier aux difficultés.
Voilà, faire que le temps d'interaction humaine prof-élève soit vraiment un temps d'interaction humaine et que ce qu'on peut un peu sortir de la classe, on essaye de le faire au lieu du modèle classique où la leçon est en classe et l'exercice hors de la classe. Il se trouve que ça a sans doute un certain nombre de vertus en matière de réduction des inégalités puisque les exercices hors de la classe, c'est plus difficile pour les élèves qui ont des conditions à domicile plus difficiles.
Ah ben on attend les évaluations, c'est comme tout. Audrey Gère, vous vouliez réagir également?
Oui, par rapport à cette histoire d'injonction, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut que ça fasse partie d'un projet pédagogique, pas seulement de la part d'un prof, mais aussi à l'échelle d'un établissement, notamment lorsqu'il s'agit d'achat d'équipements.
Mais ça aussi, c'est difficile, on le voit avec la réforme du collège, avoir un projet pédagogique collectif ne semble pas une chose forcément naturelle partout.
C'est pour ça qu'il faut que les écoles qui le font bien actuellement, qui sont trop peu visibles, diffusent leurs bonnes pratiques de manière plus large et peut-être de manière aussi moins crispante, moins effrayante. Il y a beaucoup de professeurs aujourd'hui qui ne comprennent peut-être pas forcément que ces choses-là n'ont pas pour but justement d'avoir un caractère injonctif, voire autoritaire, mais ont un caractère qui va s'adapter à leur envie d'inclure la technologie dans leur classe. Ça ne va pas être du 0% ou du 100%, mais justement des paliers à passer. Et aujourd'hui, la France ne se trouve pas non plus dans le bas du panier par rapport à des comparaisons internationales. Aujourd'hui, on a déjà des appels à projets, on a des initiatives qui fonctionnent, des communautés de profs innovants en ligne et même hors ligne lors de différents salons, différents événements. Je pense qu'il y a beaucoup d'optimisme à avoir, mais il faut juste diffuser les bonnes pratiques pour rendre ça plus familier et que ça fasse partie du quotidien des gens.
Fanny Anor ?
Oui, moi je pense que le premier argument pour un enseignant, c'est celui que Daniel évoquait, c'est finalement, pourquoi utiliser le numérique? C'est pas parce que c'est à la mode, c'est pas parce qu'on va devoir changer, c'est parce que ça peut aussi faire réussir mieux les élèves. Et la question du temps d'interaction, pour moi, elle est fondamentale. Nous, on l'a beaucoup creusé sur la lecture et investigué. Aujourd'hui, pour maîtriser la lecture, il faut environ 35 heures d'interaction individuelle. Dans le système, on a
35 heures par semaine.
Non, sur toute l'année. Mais d'interaction vraiment individuelle entre un élève et son enseignant.
C'est pas énorme, a priori, 35 heures sur
l'année. C'est pas énorme, mais à dégager sur une classe entière et par élève, c'est pas évident. Et aujourd'hui, on arrive probablement à dispenser à peu près 20. Donc il y a une vraie question, un vrai enjeu du temps. Et le numérique, ça peut permettre, justement, en optimisant le temps, de mieux faire réussir les élèves. Et ça, je pense que c'est quand même un argument que les enseignants peuvent tout à fait entendre et qu'ils recherchent tous.
Je voudrais passer à la question des data, ces fameuses données qui circulent partout dès qu'on parle de numérique, les données qui nous concernent nous quand nous allons sur les réseaux sociaux et qui vont concerner les élèves quand ils vont faire des exercices et qui vont circuler en ligne, même si ce n'est pas public, qui concernent aussi la vie des établissements, qui renseignent un certain nombre d'informations et sur les professeurs et sur les enfants et les adolescents, information personnelle dont on ne sait pas très bien entre les mains de qui elle tombe. Daniel Agacinski.
Alors, dans la note de Terra Nova dont on parle, on a cherché à aborder deux questions ensemble qui ne sont pas toujours traitées ensemble, qui sont des questions qui traitent au numérique dans l'éducation, mais qui sont souvent prises séparément. La question du numérique dans la pédagogie, des données que ça produit et de la façon dont on les traite, et la façon des données scolaires au sens plus administratif du terme, sur les parcours des élèves, les vœux, l'orientation, etc. Ce sont deux questions qui, au fond, à chaque fois, posent une série de questions comparables. C'est-à-dire ce qu'on fait et ce que le public, les parents, les professeurs, les élèves, savent de ce qu'on en fait. Pour repartir de la question administrative, on a les algorithmes d'affectation des élèves, où les élèves font des vœux à la fin du collège sur les...
Oui, ça c'est APB et AFLNET.
APB, AFLNET, voilà, ou après le bac pour aller dans, dans l'enseignement supérieur. Des algorithmes qui sont complexes, qui vont être publiés, mais enfin, publier un algorithme pour quelqu'un qui n'y comprend rien, ça
ne change
pas. Il
faut des fiches explicatives.
Oui, des fiches explicatives et un dialogue autour de l'interprétation et des alternatives possibles. Ça commence. Ça commence et il faut que ça continue, au fond. Ça oblige à objectiver les choix qu'on fait, les choix publics qu'on fait. C'est pas toujours simple. Parce que
pour que le numérique ne soit pas associé à l'idée d'arbitraire, mais qu'il y ait une véritable démocratie sur ce sujet, l'enjeu de taille.
On a, vous devez le voir régulièrement dans cette émission ailleurs, on a un gros problème aujourd'hui de confiance dans notre école. Il y a eu les journées de retrait de l'école, il y a une forme de défiance à l'égard des administrations et des institutions publiques en général, mais en particulier à l'égard de l'école. Et si le numérique n'est pas un facteur de transparence, mais au contraire, un facteur d'opacité supplémentaire, parce que c'est de la technologie, parce que c'est de l'algorithme, parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile à comprendre, ça ne va pas arranger les choses. Donc il faut se saisir du numérique dans l'administration de l'éducation nationale pour recréer de la transparence. Ce n'est pas encore le cas, mais on marche dans ce sens-là. Et sur les données scolaires, au sens des données qui sont produites dans l'enseignement, les parcours des élèves, toutes les données qui sont produites par les usages du numérique dans l'école, aujourd'hui, on n'a pas encore de réflexion globale sur à qui elles appartiennent, voilà. Finalement. À qui elles appartiennent, où elles vont, qui a le droit de les retraiter. Il y a la question de l'anonymat qui elle est à peu près correctement traitée lorsqu'elle est prise en charge, disons, de façon consciente, même s'il arrive encore un certain nombre d'enseignants d'utiliser des logiciels de major. Je ne sais pas s'il faut donner des marques, mais on peut en donner. Voilà, c'est Google, c'est Apple, c'est Twitter, c'est Facebook, c'est tout ce qu'on veut. Où là, du coup, il n'y a pas forcément d'anonymat et on ne sait pas comment c'est traité. Mais au-delà de cette question de l'anonymat, la question qui se pose, si on prend le point de vue du ministère de l'Éducation nationale en France, c'est au fond, qu'est-ce qu'on fait quand on laisse, quand on donne à des fabricants de solutions numériques la possibilité d'exploiter librement des données que nous, on ne peut pas exploiter? En fait, on leur donne des outils pour produire des logiciels qui, demain, vont concurrencer ce que l'éducation nationale est capable de faire.
Les données, aujourd'hui, c'est une mine. Oui, voilà, c'est de l'argent.
C'est du savoir.
Data mining.
Exactement. Et je pense qu'il faut une réflexion globale là-dessus pour que l'éducation nationale, qui, en France, est chargée de l'éducation des enfants dans la plupart des cas, se dote des outils juridiques les plus appropriés pour tout temps. N'ayant recours au service du privé, parce que sur le numérique, on n'arrivera pas à lutter sans ça, s'assure de ce qui est fait de ces données scolaires.
C'est ce que vous appelez le droit de la donnée scolaire. Ça existe à l'étranger? Ce sont des questions qui se posent dans les pays que vous avez visités, du moins Audrey Jard.
Majoritairement aux États-Unis, évidemment, c'est des questions qui se posent avec des retraits de certains outils comme InBloom en 2012, pourtant supporté par la fondation Bill Gates pour ces questions justement de...
Alors en quoi consistait cet outil?
InBloom, ça rassemblait simplement beaucoup de données afin d'avoir un process plus simple au sein de différents districts. Hein. Et ça correspondait à beaucoup d'élèves et ça n'est plus sur le marché. Mais il y a d'autres startups aujourd'hui qui s'attaquent au même marché, même de nouveaux projets de la fondation Bill Gates. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi une obsession du marché des headtech sur le côté personnalisation qui est fait parfois aux dépens d'une éducation sur le sujet des principaux concernés. Et je pense que c'est un des principaux problèmes aujourd'hui. En dehors du côté juridique des choses et de l'exploitation des données, c'est simplement d'éduquer les gens sur le potentiel de cette data et ce que ça peut véritablement apporter pour que les gens fassent les bons choix ensuite en connaissance de cause. Aujourd'hui, on parle beaucoup voilà, de data et d'adaptive learning, mais finalement, est-ce qu'on sait vraiment ce que ça peut permettre? Est-ce qu'on en mesure les conséquences positives comme négatives? Et c'est important de se poser ces questions.
Svenia Buisson.
Mais je pense qu'on a des exemples comme AltSchool dans la Silicon Valley qui fait des choses assez intéressantes.
Alors, c'est un réseau d'écoles dont on parle beaucoup. J'ai lu récemment un article du New York Times sur ce réseau, puisqu'il y a aussi une école à Brooklyn, je crois. Il va s'en ouvrir de nouvelles un peu partout dans les États-Unis.
Exactement, c'est un modèle de micro-school, c'est-à-dire que c'est des micro-écoles. Il y a
pas plus de 100, 120 élèves par école. Et en fait, les niveaux sont mélangés. Il n'y a pas vraiment de classe. C'est des grands espaces ouverts. Et tout est enregistré. C'est-à-dire qu'il y a des caméras pour voir comment les élèves se déplacent dans l'espace. Il y a des micros qui les enregistrent. Ils ont des playlists, en fait, d'exercices à faire pendant les cours et pendant le temps qu'ils sont à l'école. Donc, vraiment, tout est traqué. Mais à des fins d'adaptive learning, à des fins vraiment pour adapter leur apprentissage.
Big Brother au service des apprentissages.
C'est ça, mais je veux dire, si ça me permet, moi, en tant qu'apprenant, d'apprendre plus efficacement et d'avoir, en fait, des cours qui sont adaptés à mon niveau pour que je progresse à mon niveau. Voilà, c'est un débat, mais...
Daniel Agacinski, en tant que philosophe,
sans en faire un débat ou une polémique, la question de l'efficacité est loin d'être la seule question en matière de pédagogie, d'enseignement, d'éducation des enfants. Un dispositif qui permettrait d'apprendre telle ou telle compétence extrêmement efficacement, c'est-à-dire en un temps record avec un coût minimal, parce que c'est quand même ça l'efficacité, si à côté de ça, ça nous fait louper tout un tas d'objectifs de l'éducation, notamment en termes de socialisation et d'interaction entre les élèves, je ne dis pas que c'est le cas des exemples qui ont été évoqués, mais je dis simplement que les questions se posent, eh ben c'est un problème. Et donc, nous, notre point de départ, c'est d'étudier les effets, et pas uniquement l'efficacité, les effets sur tout un tas d'aspects qu'on considère collectivement comme important dans l'éducation.
Audrey Jarre.
Pour rebondir sur ce qui se fait aux États-Unis, il y a beaucoup d'entreprises aussi, comme Clever, qui est encore une fois une autre start-up qui a fait parler parce qu'elle collectait beaucoup de data, qui mettent en ligne leur clause finalement juridique de confidentialité pour que les gens puissent y aussi permettre d'y contribuer en fait et de rendre ça
plus efficace.
Mais
on sait ce qu'il en est pour les clauses de confidentialité. On fait tous la même chose. On dit oui, Facebook, Twitter, personne ne sait pourquoi il a signé.
Tout à fait. Mais là, c'est mis dans un mouvement volontaire justement parce qu'il y a ces questions autour de la confidentialité pour que des gens qui s'y intéressent, des gens qui sont spécialistes, des gens qui sont juristes, puissent avoir un droit de regard là-dessus et que ça puisse alimenter le débat. C'est vrai que c'est une question qui est extrêmement polémique et sur laquelle je pense que personne ne peut voir tout noir ou tout blanc. C'est juste une question de comprendre comment on peut changer ça dans la mesure où aujourd'hui la machine est lancée dans un sens et
c'est le cas très de dire.
C'est ça et c'est difficile aujourd'hui de l'arrêter, donc autant rassembler des gens qui ont une compréhension des enjeux autour de ces questions pour que ça n'avance pas trop vite et qu'on puisse comprendre comment le faire de façon informée. Je pense qu'on peut pas arrêter ce mouvement qui est en marche et il s'agit juste de se poser les bonnes questions et peut-être de les amener d'une façon plus urgente aujourd'hui dans les débats qui sont faits sur la question.
Sans être obligé d'adhérer à des modèles comme AltSchool où on filme les élèves. D'abord parce que je pense qu'en termes de liberté individuelle, ça pose des questions. Il y a aussi cette idée d'individualisation des apprentissages. Finalement, c'est une disruption, je vais parler comme dans le monde du net, avec le modèle traditionnel français. Quand je dis modèle disruptif, pour le coup, c'est parce que en France, on apprend collectivement. C'est le système de la classe, c'est le système de l'école de la République qui ne remplit pas ses missions à la perfection, mais qui est aussi censé apprendre à vivre ensemble. C'est un terme, une formule qui revient dans les programmes. Est-ce que ça, c'est pas aussi quelque chose de gênant, Fanny Hanor?
Non, moi je pense pas du tout, parce que je pense qu'il faut pas confondre la capacité du vivre ensemble qui est essentielle et que l'école doit continuer à apporter, et cet enjeu d'individualisation qui est... On peut pas dire que tous les enfants ont besoin du même contenu au même moment. On voit bien qu'aujourd'hui dans notre système, il y a 20% d'élèves qui sortent de l'école primaire sans maîtriser les acquis fondamentaux. Ils ont peut-être eu les mêmes acquis au même moment, mais c'est pas de ça dont ils avaient besoin.
Pour la lecture, c'est pire en mathématiques.
Exactement. Donc on voit bien qu'il y a besoin d'une forme d'individualisation. Le numérique peut aider, ce sera certainement pas la seule solution. Et je pense que la question des données, là, elle est aussi fondamentale. Nous, les enseignants qu'on a rencontrés, au-delà même du numérique, ils ont l'impression de donner beaucoup de données, justement, de collecter beaucoup de données sur leurs élèves, notamment par les évaluations que leur soumet la DEP, la Direction d'évaluation de la prospective et de la performance du ministère de l'Éducation.
Je vous remercie de le préciser.
Et en fait, ils remplissent beaucoup d'évaluations, mais eux sont assez frustrés du fait que la DEP fait très bien les choses, c'est-à-dire qu'elle publie des études très fouillées, très intéressantes, mais eux n'ont pas toujours de retour sur leurs élèves. Comment leurs élèves se situent, vraiment leur classe, pas dans des études très nationales, mais leurs élèves à eux. Et donc, je pense que le numérique peut aussi leur apporter ça, c'est que là, ça va être eux les premiers bénéficiaires de ces données. Et ils vont pouvoir s'en servir qu'ils choisissent une solution numérique ou non, mais pour vraiment implémenter leurs apprentissages et la façon dont ils interagissent avec leurs élèves.
Audrey Jarre.
Et on le voit chez AllSchool, c'est aussi une question de réactivité. On n'a plus des bulletins par trimestre, mais on a un suivi qui est au jour, voire à l'heure, des progrès des élèves individuellement pour comprendre qui a véritablement besoin d'aide, qui aura besoin de 20 heures d'attention individuelle pour apprendre à lire, qui en aura besoin de 50. Et ça, je trouve que c'est pertinent. Et aujourd'hui, je pense que le système de notation par trimestre est clairement dépassé pour que les élèves puissent apprendre, du moins si on se place sous l'angle justement d'une amélioration, d'une personnalisation, car les élèves répondent différemment à différents stimuli et je pense qu'on ne prend pas assez le temps de les tester aujourd'hui.
Suivi plus proximal et peut-être plus efficace. Alors je continue d'avoir peur, je me souviens avoir été élève, adolescente aussi. On les traque, enfin, pour le coup, le mot en français comme en anglais prend tout son sens. Les parents seraient sans arrêt au courant, ou du moins ceux qui s'y intéressent. Il n'y a plus de répit. On pourra tester tous les domaines d'efficacité et d'inefficacité de l'élève. Hein, est-ce qu'il a bien appris ou pas? Est-ce qu'on risque pas de faire des générations d'enfants à qui on aurait accordé trop d'attention numérique et à qui il faut aussi un petit peu lâcher la grappe. Daniel Agazinski.
J'aurais tendance à dire que là, on peut faire confiance peut-être à l'inertie de l'éducation en France, au sens large, qui peut nous protéger peut-être
d'une
accélération trop rapide qui nous ferait... Moi, je ne connais pas exactement le modèle dont vous parlez, mais tel que vous-même le décrivez là, les élèves ont l'air de ressembler un tout petit peu à des rats de laboratoire qui subissent une forme de monitoring.
Oui, mais c'est aussi voilà. Pronote. Oui, Pronote, ça fait longtemps que ça existe, ces Pronote qui dit si les élèves ont été absents. C'est aussi des inventions toutes récentes d'élèves eux-mêmes qui disent voilà, on va faire un système de tracking, pour le coup, je reprends le mot en anglais, avec des capteurs, et les enfants rentreraient dans la classe et on saurait qu'ils sont là. Enfin, c'est vraiment Big Brother.
Oui, c'est des choses qu'on retrouve dans le monde de la santé, où effectivement la surveillance en continu permet de mieux prévenir un certain nombre de choses. C'est l'époque. C'est l'époque de l'info en continu, c'est l'époque de la surveillance continue. Bon, effectivement, l'école a sans doute à se protéger un peu de ça. Et je pense que son inertie, encore une fois, peut la protéger un certain temps de ça.
Qui veut réagir, Fanny Anor?
Moi, je comprends l'angoisse de certains parents, voire de certains élèves, peut-être plus encore. Mais il faut aussi regarder le système tel qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est un des pays de l'OCDE où il y a le plus d'anxiété à l'école. Et pourtant, il n'y a pas de numérique, on n'est pas traqué en permanence. Moi, je pense que le numérique, à l'inverse, et je pense qu'il y a des écueils dans lesquels il ne faut pas tomber, mais ça peut aussi permettre d'effacer les stigmates de l'échec. Se tromper face à sa tablette, c'est pas grave, personne d'autre que l'élève ne le voit. Et on va pas lui en tenir rigueur, on va suivre une courbe de progression. Et je pense qu'il faut comprendre aussi que les enseignants seront toujours extrêmement bienveillants avec leurs élèves, et je vois pas pourquoi le numérique changerait ça.
Merci de nous avoir rassurés. Ce sera le mot de la fin. Fanny Anor, chargée d'études à l'Institut Montaigne. Avec nous également aujourd'hui, Daniel Agazinski, co-auteur d'une étude de Terra Nova, l'école sous algorithme, et Svenia Busson et Audrey Jarre, qui ont réalisé un EdTech World Tour. Nous mettrons tous les liens sur le site de France Culture à la page de Rue des Écoles. Que vous ayez écouté cette émission ce dimanche 24 avril ou en différé, la meilleure chose à faire, c'est de vous abonner à notre podcast. Si vous commentez ce programme sur Twitter ou si vous souhaitez que nous voyons vos remarques, n'oubliez pas de mentionner mon nom ou le hashtag RDE. La semaine prochaine, nous débattrons de l'agrégation, 250 ans au compteur et beaucoup de débats. Aujourd'hui, dans quelques secondes, vous retrouvez l'ami Antoine Garapon pour sa chronique sur la justice. Excellente soirée sur France Culture, excellente fin de week-end.